Bonjour, je suis Marie Bourgoin de la Fondation de Poitiers. Je travaille dans cette association qui a été créée. Je vais juste vite fait vous refaire un petit historique parce que c'est assez particulier à Poitiers d'avoir eu la chance de pouvoir d'avoir un lieu comme ça à Poitiers. Pourquoi ça a été à Poitiers? C'est une histoire qui est locale. Il se trouve qu'à Poitiers, déjà en 88 et même avant en 87, des fanzines. Qu'en 88, il y avait une instance qui était dans les lycées qui s'appelait le Conseil communal des jeunes, qui, lors de leur premier mandat, ont demandé à la mairie de Poitiers, on n'entend pas, ont demandé à la mairie de Poitiers une fanzinothèque. Ils savaient à peine ce que c'était. La mairie a accepté et elle a essayé de recruter quelqu'un pour s'en occuper. Il se trouve que nous, à l'époque, on avait un magasin de disques indépendant, on faisait des concerts, on vendait des fanzines, on vendait, et que c'est comme ça que Didier Bourgoin avait été recruté habitant par la ville de Poitiers. Alors c'est un peu bizarre, hein, parce que ça aurait pu être dans des lieux un peu plus connus, ou à Paris, ça s'est fait à Poitiers. Le but de l'association, depuis le départ, c'est de conserver, d'archiver et de recenser la petite presse et les fanzines. En fait, il y avait un festival de la presse lycéenne à Poitiers. C'est pour ça qu'au début, c'était petite presse lycéenne, fanzine. C'était pas très très clair les choses, quoi. Nous, on faisait des fanzines de rock, donc on connaissait le réseau, on faisait déjà des newsletters, on se déplaçait. On a très facilement, en fait, convaincu les gens de nous donner leurs exemplaires, de nous envoyer leurs productions. Ça a été très, très rapide et très spontané, une espèce d'adhésion des fanzines à un projet qui était complètement, justement, et atypique et complètement en contradiction. Le mot fanzine et le mot tech, ça nous semblait un petit peu bizarre au début. Hein. Surtout que cette presse n'était pas encore archivée quasiment, puisqu'elle existait à peine, quoi. Il y avait déjà, bien sûr, des traces depuis des années, mais en fait, elle était, avant de traiter l'archive, il fallait d'abord récolter, quoi. Il fallait déjà qu'on récupère les exemplaires, qu'on puisse amasser de la documentation. Avant de commencer à parler d'archivage, de conservation, il fallait déjà connaître ces fanzines. Alors, pour ce faire, on a énormément bougé, on a fait des festivals, on s'est déplacé, on a fait de la pub dans les fanzines, très classiquement, hein, puisque c'est comme ça que, voilà, que par le bouche à oreille, le lieu a pris. On faisait aussi évidemment des concerts, des expos. Tas de choses pour dire que cette presse, on avait la partie archivage, mais on avait aussi surtout une partie de dire attention, ça existe, c'est en construction, c'est en devenir, c'est là que ça se passe à l'époque. Donc au fil des ans, on a quand même réussi à. Alors j'ai juste, je vous montre, je vous parlerai après des petites images. Au fil des ans, parce que 89-2015, ça fait je sais pas 27 ans, on a quand même maintenant une collection de 30 000 documents. Alors, j'ai été un petit peu chercher dans les archives pour voir un petit peu qu'en 1992, on a un article qui dit qu'on avait 1000 titres. En 95, on avait 7000 titres. En 2005, 18404 fanzines. Et en 2015, 10 ans après, là, actuellement, 26355 fanzines. Le reste de la collection, ce sont des magazines, des journaux, des livres, différentes choses qui intéressent les sujets proches du fanzine, c'est-à-dire le rock et la BD en gros. Avec peut-être un peu d'autres thèmes, mais principalement ceci. Donc le problème premier qui se posait pour nous, c'était de récupérer ces fanzines. Sachant que il n'y a pas de liste de diffusion, il n'y a aucun lieu où on va tomber sur des listings qui te disent il y a tous ces fanzines-là, dans toutes les villes, il n'y avait strictement rien. En fait, le meilleur moyen de connaître finalement les fanzines, c'est d'en lire et de voir un peu ce qui se passe dans les chroniques, puisque c'est dans la chronique. Les fanzines nous font toujours de la chronique musicale, et ils font aussi énormément de chroniques des autres fanzines. Et c'est absolument une source, c'est la meilleure source, parce que c'est déjà de l'info, comment j'avais écrit, c'est déjà une sélection critique. C'est-à-dire qu'un fanzine de reggae, on va parler des fanzines de reggae, etc., fanzine punk, vont t'amener dans le réseau des fanzines punk. Et voilà, de fil en aiguille, on a pu comme ça, et se faire connaître, et récupérer des exemplaires, et monter cette collection. Alors, ouais. Alors, il se trouve que maintenant, en fait, les fanzines, ils arrivent tout seuls à la fanzinothèque. Enfin, ça fait un paquet d'années que c'est comme ça. On est suffisamment connus pour que les gens sachent. Enfin, on est connus et en plus, les gens savent ce qu'on fait de leur fanzine. C'est-à-dire qu'on ne les met pas dans des cartons dans un coin, on les exploite, on les montre, on fait leur promotion, enfin, on fait tout pour leur bien-être, on les conserve, on les chouchoute. Voilà. Et il y a une sorte de confiance, en fait, envers la France Bibliothèque, que les gens donnent leurs exemplaires en sachant qu'il y aura quelque chose derrière, quoi. C'est un don spontané, on ne demande pas forcément aux gens, je vous demande des fois un peu gentiment, mais il n'y a pas cet aspect qu'aurait eu le dépôt légal ou des choses comme ça, en sommant les gens d'envoyer des exemplaires. Si on avait agi comme ça, ça n'aurait jamais marché. Clairement, on n'aurait rien eu. Trois fois rien, quoi. En étant nous-mêmes dans le réseau en grande, en connaissant déjà les fanzines, déjà on savait où aller, il y a une relation de confiance qui s'est instaurée, ça... et puis après, de bouche à oreille, les fanzines, entre eux, parlent de la fanzinothèque, disent intéressant, les choses sont conservées. C'est comme ça qu'on a, voilà. Je peux vous dire qu'actuellement, on reçoit encore une centaine de fanzines par mois. Ouais. Il y a 15 ans, on en recevait 150 par mois. Donc là, on en a un peu moins, mais c'est quelque chose qui ne s'arrête pas du tout. Il y a toujours des réguliers, hein, je parle juste de la musique, mais il y a toujours des titres, Le Dangereux, Rocardi. Mais après, il y a des tas de titres qui débarquent comme ça, numéro 1. Publication qui arrive à la Fanzinothèque, avec un petit mot qui nous explique un peu. Et voilà, ce qui fait que du coup, être assez connu pour que les choses viennent vers nous, moi qui m'occupe de ça, ça me facilite grandement la chose. La Fanzinothèque ne s'occupe pas exclusivement de la musique, hein, des fanzines de rock, elle s'occupe de tout ce qui traite de la petite presse, aussi bien littéraire, musicale, et science-fiction, bande dessinée, graphisme, politique, pas mal de journaux anarchistes. Tout ce, dans la mesure où c'est de la petite presse, nous on garde ici. C'est-à-dire dans la mesure où ces choses-là, ces petits tirages risquent de disparaître, voilà, on essaie de tout conserver, de conserver un maximum de choses. On ne fait pas forcément des tris, parce qu'il y a des choses qui n'est pas excellent dans le fanzine. Hein, on verra plus tard. Dans un premier temps, c'est déjà bien de récupérer les choses parce qu'elles peuvent vraiment disparaître. On a des fanzines tirées à 5, 10 exemplaires. C'est sûr qu'ils ne sont pas totalement disparus, mais personne ne pourra comme ça facilement trop tomber dessus. Alors actuellement, effectivement, il y a beaucoup moins de fanzines de rock. Hein. C'est clair, là, actuellement, ce qui marche, c'est les graphzines, c'est tout ce qui est de l'ordre plus de l'artisanat. Le fanzine rock, clairement, il est passé sur Internet, parce que tout simplement, il y a la réactivité d'une part, parce que c'est quand même un gros obstacle pour le fanzine, c'est de... Bah, on voit bien des fanzines qui publient une interview d'un groupe qui a splitté 2 ans avant, enfin... Bah, toujours très très rapide, le fanzine, quoi. Donc forcément, le webzine, en plus, on peut mettre le son, on peut mettre l'image, bon... Il y a énormément de gens qui sont partis sur Internet, avec l'arrivée d'Internet. Et nous-mêmes, qui faisions donc cette newsletter, s'appelait Arsenal Sommaire, Poitiers, on voit pas en entier, qui est une newsletter qu'on faisait avant que la fanzinothèque existe, avant même d'être disquaire, donc dans la mesure où nous on avait fait un fanzine, et on était toujours super frustrés de se rendre compte qu'on avait raté un concert un jour avant à 100 bornes, quoi. Parce qu'on ne savait pas, il n'y avait pas d'infos, il n'y avait pas moyen d'avoir de l'info. Et on s'est dit, on garde le fanzine pour les sujets un peu plus longs, et on veut faire un truc réactif, quoi, un truc mensuel, un truc qui coûte pas cher, donc l'Arsenal, ça date de octobre 87. C'était juste un fly, un recto verso, noir et blanc, avec de l'info brute, qui était régionale, ça commençait plutôt Poitou-Charentes, après on allait jusqu'à de Angers à Bordeaux, de La Rochelle dans la Creuse, enfin on a eu un grand réseau de 17 départements, peut-être 200 lieux où on diffusait l'Arsenal. Cette histoire ayant duré, alors ça c'est le premier, moi j'ai mis comme ça, recto, et le verso, région. À l'époque c'était tapé à la machine, voilà, sur des feuilles de papier, on faisait un fond de collage, on recollait les infos dessus. Et ce réseau, ça c'est le premier numéro, et je vous montre le dernier, 20 ans après. On voit que ça n'a pas tellement changé. On vit de la mort, on ferme. Au bout de 225 numéros, on s'est bien rendu compte que bah, maintenant, ça ne servait plus à rien ce qu'on faisait, quoi. Ça nous prenait une semaine par mois, ça demandait pas mal de travail, de sous aussi, parce qu'il fallait pour les timbres, principalement. Et clairement, quand j'ai commencé l'Arsenal, je téléphonais dans les salles et je disais, bon, Shabada, qu'est-ce que vous avez? Donnez-moi votre programmation du mois. C'est plus la peine, quoi. Il suffit d'aller sur Internet, voilà, sur le site du Shabada, tu as tout ce qu'il faut. Du coup, voilà, c'est une manière aussi pour le papier d'avoir perdu sa fonction première. Cependant, les gens qui sont passés sur les supports numériques, certains webzines ont éprouvé une sorte de frustration à se dire quand même qu'au bout du compte, on n'a rien dans les mains. On est un petit peu dépossédé, c'est une espèce de flux qui ne s'arrête pas et on aime bien parfois un peu figer les choses, avoir une trace, avoir même aussi une image ou un visuel, quelque chose qui raccroche à une époque, parce que Internet c'est moins évident. Quoi. Et il y a donc des webzines qui vont ponctuellement sortir un bouquin ou sortir un fanzine pour par exemple faire un best-of des meilleures interviews ou pouvoir publier des articles beaucoup plus longs, ce n'est pas forcément possible, ou plus analytique, ce qui est moins agréable sur Internet, chose qu'on va pouvoir lire, relire. Moi, je dirais que c'est la tendance actuelle. Hein. C'est-à-dire que même si le fanzine rock n'existe plus beaucoup, il a ses nostalgiques, il y a des gens qui vont toujours continuer parce que c'est des fans de papier. Il y a des gens pour qui le fanzine, ça a été qu'un moyen d'expression comme un autre, comme la radio, comme d'autres supports, et puis peu importe le support, du moment qu'on a l'info. Voilà, et donc il y a vraiment ceux qui sont nostalgiques du papier et puis ceux qui sont pour l'info. On est un peu les deux à la fois, mais maintenant on se retrouve avec un autre paradoxe que je remarque actuellement, c'est que le périodique n'a plus du tout la cote et que les gens qui publient préfèrent publier un objet fini. Cette idée de périodicité, de tous les mois, tous les deux mois, numéro 1, 2, 3, 4, j'ai l'impression que ça ne marche plus trop. Soit les gens ne veulent pas s'engager, je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai remarqué, en tout cas, que le périodique, c'est plus tout le truc à la mode. Peut-être c'est souvent aussi, donc, toujours à dire « t'as même fini un numéro, il faut attaquer l'autre. » Les gens préfèrent peut-être faire un objet fini, puis après, on passe à autre chose. Est-ce que c'est plus dilettante? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore analysé la situation. Je vais vous parler un petit peu de la façon dont nous, on présente la collection à la Fanzinothèque. Ça, c'est les photos tout à fait du début de la Fanzinothèque, puisqu'on était avant Disquaire et qu'on avait déjà cette présentation, c'est-à-dire qu'en fait, les fanzines, ils étaient sur du grillage, accrochés avec une pince à linge. De façon à ce que ce soit vraiment en pleine vue, il n'y avait même pas de classement alphabétique à l'époque, mais peu de fanzines, Et voilà, l'idée, c'était quand même que, bien qu'on soit un lieu d'archivage, on voulait absolument que ça soit vu, manipulé, touché, et que pour bien prouver que c'est une presse vivante. On n'est pas encore dans le musée. Ça, c'est tout à fait le début de l'association. Pas beaucoup de fanzines. J'ai une autre petite photo après. On voit qu'il y a un petit peu plus de choses sur les murs. Je ne sais pas si vous voyez. Et j'ai une troisième photo pour vous montrer un petit peu la progression. Là, on voit par terre. Si vous voyez que par terre, il commence à y avoir des bacs qui s'installent, parce qu'au bout d'un moment, cet accrochage n'a plus été possible. Tous les fanzines se cassaient la figure, on en prenait un, on en faisait tomber 10, enfin, c'était l'horreur. On a commencé à mettre ça dans les bacs, au bout d'un moment, pareil, les bacs ont été archivés. Hein. Parce qu'on a vraiment grosse collection. Et je vous montre quelques photos de la fanzinothèque actuelle. C'est-à-dire qu'à un moment, on a pu s'agrandir, on a créé un salon de lecture parce qu'il y avait la partie archive et il y avait la partie aussi vivante et tous ces fanzines qu'on recevait, on voulait aussi les montrer tout de suite, quoi. Les montrer tout de suite et puis que les gens qui passent à la fanzinothèque qui ne connaissent pas les fanzines, souvent vont dire « Mais qu'est-ce qui se passe actuellement ?» Pas forcément « Qu'est-ce qui se passe en 85 ?»« Qu'est-ce qui se passait ?»« Ah, ça existe encore les fanzines ?»« Oui, tu vas voir, maintenant. » Donc voilà, un salon de lecture et puis après, pour... deux, trois photos de fanzines. Non, là. On voit peut-être pas beaucoup. Et pour finir, on a été obligé quand même d'opter sur des rayons un petit peu plus classiques, voilà, qui se présentent comme ça, en gardant quand même les fanzines en façade. Parce que c'est important pour nous qu'on voit tout de suite, et puis ça donne une espèce d'effet de masse aussi, d'avoir des choses très différentes dans tous les sens. Donc voilà. D'autant que le problème du fanzine pour son classement physique dans les rayonnages, c'est quand même un petit peu complexe parce que les formats sont très différents. C'est mou en plus un fanzine. On ne peut pas le mettre sur la tranche, ça ne ressemble à rien. Ça se casse la figure, il y a des petits, des grands, des longs, des ronds, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Alors ça, c'était un peu compliqué à arriver à une présentation un petit peu attractive sans abîmer les documents en même temps. Ce qu'on a choisi aussi, bon, c'est un ordre alphabétique tout simple. On a su séparer les pays, mais on n'a pas pu, on ne s'est pas autorisé à partir sur un classement thématique. Le fanzine ne parle, enfin, parle parfois d'un seul sujet, mais en général, si c'est rock et BD, si c'est un peu science-fiction avec de la bande dessinée, enfin, ça va devenir ingérable. Ou un fanzine de bande dessinée qui fait un numéro spécial punk, ou un fanzine punk qui fait un numéro spécial BD. On va pas éclater les collections, mais les titres dans tous les sens. Donc, on garde cet ordre-là. Après, par informatique sur le fichier, on peut très bien retrouver tout ce qu'on veut en thématique. Voilà, c'est ça, c'était la partie donc présentation du lieu. C'est un lieu, je ne vous l'ai pas dit, mais qui est situé dans une salle de concert, à Poitiers, le confort moderne. Et on est ouvert les soirs de concert, ce qui fait qu'on a aussi un public, on a un public du soir, principalement. Et souvent des musiciens aussi qui sont très très contents de retomber sur quelque chose qu'ils avaient fait un peu avant. Ouais. Bon voilà, ça c'était la partie, disons, on essaie de faire vivre ce lieu, de dire que la petite presse est vivante, elle est toujours là, elle est dynamique, elle se renouvelle sans arrêt, c'est pas du tout un truc d'archive ou de... c'est pas un sujet qui est fini. La petite presse, elle intéresse toujours autant de gens, et ça on voulait le montrer. Ce qu'on a fait dès le début aussi, c'est qu'on a toujours travaillé sur la matière documentaire. Alors, comme on a pu, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, on a commencé par publier des répertoires, catalogues des fanzines musicaux français, il y a à peu près février 92. Alors ça, des répertoires qui s'appelaient des RPPM, on en a fait pendant 92 à 2007, une vingtaine d'éditions, deux fois par an. En fait, c'était juste un listing de... deux fanzines, réactualisées deux fois par an, avec le nom du fanzine, son adresse, le genre musical, la périodicité, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pas d'email, pas de tout ça, c'était au vieux. Voilà, genre musical important, avec... on a un petit peu essayé de créer aussi des catégories musicales, parce que il fallait... on s'était un petit peu inspiré de ce qui se passait dans les bibliothèques, mais le mot rock ou le mot jazz, c'est pas suffisant pour nous. Nous, il fallait qu'on puisse rajouter hardcore, ska, reggae, noise, enfin bon, voilà. Donc là, sur ce listing, ça ne se voit pas beaucoup, mais il y avait toutes ces abréviations qui pouvaient être combinées, parce qu'on pouvait être pop, noise et plus. Et qu'on diffusait, voilà, ça coûtait 5 francs, je crois, on en tirait 200. C'était vachement utile, en fait, aux groupes qui voulaient cibler leurs envois pour la promo, quoi. Histoire de se dire, bon, je fais du ska, je vais trouver les fanzines de ska, et pas envoyer des trucs partout. Et ça, ça a très très bien marché pendant longtemps, mais bon, c'est un petit peu... ça ne rendait même pas compte, en fait, de ce qu'il y a à la fanzinothèque, mais de ce qui existe. Parce que dans ce listing, je pouvais mettre aussi des choses qu'on n'avait pas, et dont je savais qu'ils existaient. C'était voilà, et en fait, maintenant, c'est un outil qui est intéressant, parce qu'on peut vraiment suivre la production des fanzines rock, tous les 6 mois, on peut très très bien voir, on pourrait faire des statistiques, combien de temps dure un fanzine, quelle est la périodicité type, je la connais, c'est aléatoire, c'est plus simple. Je pense que maintenant, ces listings vont devenir des outils quand même assez intéressants pour retracer cette histoire, en tout cas de la publication. Donc on a fonctionné comme ça, c'est pareil, c'est encore tapé à la machine. Hein. Et en 94, on s'est équipé, on a créé un site internet et on a commencé assez vite après à faire un travail, à créer une base de données sur le rock qui s'appelle Doc Rock. On a bossé 4 ans dessus. Et voilà, c'est une base. En fait, on a épluché 1500 fanzines français de ce qu'on avait. On en a tiré 30 000 références de groupes, de sujets, d'artistes. Avec, là j'ai mis une recherche sur Lucrate Milk, on tape Lucrate Milk ou autre chose. Et le résultat, voilà, ça va sortir tous les fanzines où il y a un article dessus. Et quand on clique encore sur le nom du fanzine, on va faire une photo, une interview, un article, une scène report, voilà. Donc cet outil est bien, mais c'était pas encore tout à fait ce que j'aurais rêvé, quoi. Moi j'aurais toujours rêvé d'avoir un logiciel de catalogage, malheureusement, ça coûte les yeux de la tête, on n'a jamais pu se payer ça. Jusqu'en 2007, où avec l'arrivée d'un logiciel qui s'appelle PMB, que tout le monde connaît, je pense, logiciel de catalogage libre et gratuit, qui nous a permis vraiment, cette fois-ci, de faire un vrai travail documentaire. sur ce fonds. Donc voilà, en 2007, on commence à faire ce catalogage sur KMB. En 4 ans, je rentre 7000 fanzines, sachant que je rentre prioritairement à l'actualité. Parce que j'estime que si on nous envoie un fanzine, la moindre des choses, déjà, c'est de remercier, mais aussi de dire aux gens, voilà, on en fait quelque chose, quoi. Et tout autant qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux fanzines, et pas forcément à l'archive, qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe actuellement, avec qui je peux communiquer. Ou... Voilà. Moi, ça me semble vachement important d'avoir quand même toujours cette actualité. Donc, 7000 notices, voilà, en 4 ans, bah, ça peut être un petit chemin. Hein. Et en 2012, parce qu'on trouvait quand même que ça n'allait pas assez vite, on a essayé de faire ça. On a fait une intégration globale, en fait, de 15000 fanzines, d'un seul coup. On a bossé un an pour recenser tout le fond de la fanzinothèque, ça on n'avait jamais fait. On ne savait pas ce qu'on avait, en fait. Tout repasser, un an. Ensuite, moi, j'ai encore passé des mois et des mois à corriger tous les fichiers, à éviter les doublons, parce que les fanzines génération négative, il y en a 4, versus, il y en a je ne sais pas combien. Il y a des titres comme ça, où ça m'en dirait extrêmement pour mélanger les collections. Donc ça, c'était pas évident, d'ailleurs, il y a eu des petits cafouillages. Mais enfin, quoi qu'il en soit, en 2012, on avait quand même 22 000 fanzines voilà, recensées dans ce catalogue. Alors, pour parler un peu de ce catalogue, il est quand même assez simple. Moi, j'ai quand même opté pour des recherches simplifiées, pas trop de choses compliquées. À un moment, sur les catégories, j'étais partie sur distinguer hardcore, punk, machin, puis après j'ai fait non, c'est pas possible, parce qu'après on se retrouve avec des listes énormes. Donc c'est musique. Et c'est après, dans la notice elle-même, que je vais préciser. D'autant qu'un fanzine parle sur un numéro, il parle de hardcore, et sur celui d'après, il parle de, je sais pas quoi, d'un bus. Donc on ne peut pas mettre ça au niveau de la notice, il faut que ça soit après au niveau de chaque numéro qui vont être, eux, parfaitement dépouillés. Je voulais vous montrer. Alors voilà, ça j'ai été obligée de mettre l'écran en deux fois parce que c'est trop grand. Ça c'est par exemple cet écran-là, ce sont les dernières acquisitions. Je ne peux pas cliquer dessus, mais sinon ça ouvre la notice, il y a une image et puis un descriptif. Alors quand on a fini, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a écrit kangourou quelque part. Je pense que oui. Oui, c'était pour vous donner un exemple. Voilà, quand on a fait cet afflux massif de notices, on s'est retrouvé avec des choses où il y avait écrit le nom du fanzine. Et puis, en général, dans les mots-clés, il y avait écrit France. Non, c'est bien, on sait qu'on a ce fanzine, il y a sa date, il y a son numéro, on sait qu'il est français, mais c'est à peu près tout ce qu'on a pu rentrer dans un premier temps par rapport à un fichier Excel. Maintenant, moi, il faut que je repasse ça et que je reprenne toutes ces notices, je rouvre tout et que j'indexe tous les sujets. Parce que ça me semble vachement important. Oui, c'est un travail de malade. D'accord. Alors, par exemple, je viens de faire les spliffs et j'étais sûre de les avoir déjà fait. Putain, mais c'est pas fait, ça, c'est pas possible. Tout ce qui manque, c'est affreux. Ça avance plus. En fait, ce catalogue, ce que je fais, c'est que moi, je lis le fanzine, je vais sortir absolument tous les sujets. J'ai même un petit peu staccanoviste là-dessus, parce que moi, je chronique aussi les chroniques et les démos. Je prends tout, quasiment tout, parce que si je me contente, je vais lire mon texte, ça va être simple. Si je me contente des groupes phares qui ont été mis sur la couverture, par exemple, moi, j'ai pas l'impression de faire mon métier, parce que ce groupe-là, OK, OTH, les DME, ils ont déjà pas mal de presse, hein, je dis pas que ça soit moins bien. Moi, ce que je trouve intéressant dans le fanzine, c'est la profusion des groupes, et que sur une scène où il y a eu peut-être quelques groupes phares, il y en a 500 dessous, qui sont pas très connus, mais qui ont été tous viviers, qui a fait avancer cette scène. Ces groupes-là, parfois, ils ont fait un seul concert. Faites de la musique, il y aurait eu une démo. Moi, ça me semble important de ressortir ces sujets, contrairement à ce que quelqu'un disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut aller loin dans le truc, d'autant que il n'y a que nous qui avons ces sources-là. Quoi. Je sais que parfois, je patauge un peu sur un fanzine, et donc je vais faire de la recherche sur Internet, et ben, je retombe sur mon site. J'ai dit, bon, d'accord. Il y a vraiment très très peu de choses. Quand je fais ces chroniques, des fois j'ai 300 mots-clés quoi, pour un fanzine. C'est fou, quoi. Et je me dis, oh, j'en ai marre. Puis je tombe sur un groupe que je connais. Je dis, un petit groupe, un groupe de Poitiers, par exemple. Je dis, oh, ok, allez, je fais tout. Donc c'est très très long. Je peux passer presque une matinée sur un fanzine. Enfin, un groupe fanzine, j'entends. Mais voilà, et tous ces. J'aime bien aussi, et puis tous ces festivals, enfin tout ce qu'on peut trouver dans les fanzines, qui vont permettre aux gens de retrouver un peu de leur passé. Ah ouais, j'étais à ce concert-là. Enfin bon, j'aime bien avoir pas mal de précisions. Sachant qu'il y a un moment où il faut quand même venir à la fanzinothèque lire le vrai fanzine. Je ne peux pas non plus tout mettre, il manque des choses. Alors je dirais que pour moi, le problème pour cataloguer, je sais que les bibliothécaires ne savent pas, mais les fanzines, c'est un peu compliqué. Catalogage parce que les titres changent, il y a des fautes, ils se trompent dans les numéros, dans les années, dans les paginations, dans les noms des groupes, enfin, c'est écrit dans tous les sens, c'est pas facile. J'ai parfois, bah voilà, quand il faut que je retrouve la date d'un fanzine, je vais voir par rapport aux chroniques de disques, je vais voir les sorties de disques, puisque bah, ouais, c'est presque le seul truc que je puisse avoir. Parfois, on a des fanzines, il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de date, il n'y a rien. Bon, c'est embêtant, mais je les appelle sans titre. Mais ouais, c'est parfois très compliqué. Il y a un truc aussi, par exemple, les fanzines de rockabilly, qui ont été refaits dans les années 80, ne parlaient que de trucs très très anciens, avec une esthétique très très ancienne, c'est impossible à dater. On ne sait pas si c'est de 60 ou de 80. C'est une espèce de facsimilé de l'ancien. Et il n'y a pas, alors, il n'y a pas de concert, ou alors on parlait de concert de Elvis, 40 ans avant. Ceux-là, c'est bizarre, mais ceux-là, ils sont vraiment très très problématiques. Ce qui est particulier aussi aux fanzines, c'est pour ça que là, pour les mettre en ligne, c'est un petit peu compliqué, c'est que c'est écrit dans tous les sens. Donc c'est ça, au niveau de la lecture sur un écran, c'est l'enfer. Mais enfin, on sort. Bon, alors, dernière chose que je vais aborder, puis ça c'est encore un grand grand sujet de débat, ça va être sur la numérisation. Donc, je trouve que nos fanzines sont anciens, parfois les encres s'effacent, on perd des feuilles, ils sont à peine agrafés parfois, il semble important de pouvoir les conserver. D'autant que nous, ils sont pas mal manipulés à la fanzinothèque, on a fait beaucoup de photocopies avec ces fanzines, on a fait beaucoup de dossiers de documentation, donc on a entrepris il y a 2-3 ans de numériser une partie des archives. On ne numérisera pas tout. J'avais choisi, moi, dans un premier temps, on a numérisé 1000 fanzines rock que je pensais historiques, les plus importants. Et maintenant, on a pas loin de 2000 fanzines en ligne. Enfin, on en a numérisé et mis en ligne. On a fait deux choses différentes. Parce que la mise en ligne, c'est autre chose, puis il faut demander l'autorisation des auteurs. Et que dans notre cas, c'est un peu compliqué. Ce qu'on fait, c'est que quand on peut, on demande aux auteurs. Quand on ne peut pas retrouver les gens, parce que c'est quelqu'un qui a fait un fanzine qui s'appelait Nono et qui habitait cité universitaire, machin, c'est mort. Sérieusement. À ce moment-là, on se permet quelquefois de mettre en ligne en précisant bien si vous reconnaissez votre document, si vous ne voulez pas qu'il apparaisse, tant parce que ça s'abîme quand même un petit peu. Je dirais, à mon avis, ça résistera mieux que le numérique, mais bon, on prend les deux supports, comme ça on verra ce qui tient mieux. Voilà, enfin, pour finir, pour dire que la version papier est largement supérieure au numérique, ça c'est clair, puisqu'on va avoir des odeurs, des craquements de papier, enfin des tas de choses qu'on va absolument pas retrouver à l'écran. D'autant que les formats, tout ça, c'est pas du tout restitué non plus. Si j'ai encore une petite minute, je voudrais juste faire deux petits témoignages de gens qui nous ont écrit. Alors, je viens de recevoir par la poste l'exemplaire de Cortex de nuit datant de 1986. C'est avec grand plaisir que j'ai relu les textes qui y figurent. Le fait de retrouver Pneu un pilou-pilou écrit à cette époque-là m'a tellement ému que j'en ai eu les larmes, j'en ai eu des frissons. En effet, c'est le seul poème qu'il me reste, grâce à toi, de ma courte période parisienne. J'avais à l'époque écrit une trentaine de textes similaires, mais un soir de grand froid et pensant perdre la raison en m'entendant dans cette voix, j'ai décidé de tous les brûler dans un petit square à Montmartre. Un passant qui promenait son chien à la tombée de la nuit m'a d'ailleurs traité de fou en me voyant. Mais avec du recul, même si je considère aujourd'hui qu'il était préférable pour ma santé mentale de tout arrêter, je crois que ma plus grande folie a été de faire disparaître à jamais ces quelques écrits. Simplement pour m'avoir permis de me replonger quelques instants dans ces souvenirs personnels, je te fais part de ma plus grande gratitude. Encore merci, au revoir, Yvan. Et un deuxième témoignage qui n'est pas vieux parce que c'était en octobre. Là. Aujourd'hui, j'ai eu un choc délicat et délicieux. J'étais sur YouTube pour écouter The Hypothetical Prophet, groupe français que j'avais rencontré quand je réalisais Canoë avec deux copains. Ayant vécu en Asie pendant 22 ans, j'ai perdu toute trace de mon boulot sur les 6 volumes de Canoë. Je repensais à cette rencontre avec HP et je me suis amusée à taper Canoë. Après pas mal d'échecs, je suis tombée sur votre site de la Fanzinotech et j'ai appelé sans grand espoir. J'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit que vous aviez 2 volumes de Canoë, quel bonheur. Nous étions 3 à réaliser ce fanzine, un qui s'occupait de la musique pour la cassette, un qui faisait des collages et moi j'écrivais mes poèmes. Tout c'était sur la photocopie, donc on ne sortait que 200 à 300 numéros à chaque fois. J'ai tout perdu de mes écrits et maintenant je sais que vous en avez récupéré 2 exemplaires, le 1 et le 3, merci, ça me fait chaud au cœur. Je n'arrive pas à imaginer encore que vous ayez sauvé ces 2 exemplaires. Je vous remercie, c'est tellement fort quand on peut retrouver quelque chose que l'on croyait perdu. Amitié et bonheur de relire mes textes de jeunesse. Jean-François Arnaud. J'ai fini.